L'objectif est de repolitiser et révolutionner l'accompagnement et changer le monde.
Un projet militant.
Comment monter le volume ensemble ?
On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change. Chères accompagnantes et accompagnants du Turfu, bienvenue à bord, Elsa Coutelier speaking, ton accompagnante vénère préférée, pour un nouvel épisode d'Accompagnante, le podcast qui révolutionne l'accompagnement pour changer le monde. Que cela soit en solo ou avec des intervenantes complices, ici on dit que l'accompagnement est politique et qu'on est là pour faire bouger les choses. Et on t'invite à les faire bouger avec nous et à créer une communauté engagée et fière de l'être. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. On se retrouve de l'autre côté après cette dose de pop-pop-power. Est-ce que tu as déjà accompagné quelqu'un coincé dans une situation qu'il ou elle ne peut pas changer? Est-ce que tu t'es déjà senti limitée, impuissante, impuissant face à ce genre de situation? Est-ce que tu t'es vraiment demandé ce que ça veut dire profondément pour toi, accompagner à changer? Et puis, est-ce que tu t'es déjà demandé où commence ta légitimité à dire non, à poser une limite, à ressentir ce que tu ressens, même si ça dérange? Si ces questions résonnent, bienvenue dans la deuxième partie de la table ronde avec Anne Van Hift Morel, enregistrée en public le 1er octobre 2024 pendant le Punchline Festival. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, stop tout et file l'écouter. On y pose des bases essentielles. La méthode d'autodéfense MEVIP, donc la méthode d'autodéfense mentale, émotionnelle, verbale, intellectuelle et physique créée par Anne. Le lien hyper important entre sidération et action. Et l'autodéfense comme un outil d'empuissancement joyeux, politique et collectif. Dans cette deuxième partie, on va encore plus loin. On parle du magnifique projet de bande dessinée Défends-toi toi-même, co-créé par Anne et l'illustratrice-autrice Kay Lam, publié chez l'Iconoclaste. Une BD comme un outil, pas un manuel descendant. C'est plutôt un support de transmission, d'échange, un déclencheur de discussion, que ce soit en cabinet, en collectif ou dans ta propre introspection. Je vous invite à le lire, à le faire lire, à le glisser dans vos médiathèques ou à l'offrir depuis votre librairie de cœur. On poursuit aussi l'échange avec Anne et avec le public autour de questions essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire « accompagner sans réparer » ? L'importance de la transmission par le questionnement et la co-construction. Le questionnement autour de certains outils dits bienveillants comme la CNV, la communication non violente, qui peuvent parfois perpétuer des oppressions systémiques. Anne partage aussi sa vision du fait qu'il n'y a pas de lieu 100% safe pour elle, même entre militants militantes, même entre amis, amoureux, amoureuses. Et surtout, comment retrouver notre boussole intérieure, refuser qu'on nous dicte nos ressentis et garder la main sur notre perception du réel. En fin d'épisode, vous entendrez les résonances donc du public, les questions, les échos. On y parle aussi du droit de ne pas s'en remettre, de rester désolé, inconsolable, et de ce que ça ouvre de collectif, de politique, de vivant. Si cet épisode vous bouscule, vous outille ou vous apaise, faites-le vivre, déjà par le pouvoir de vos mots. Vous pouvez laisser un avis et une note sur votre plateforme d'écoute adorée. Parlez-en autour de vous également. Partagez cette table ronde, partagez le podcast. Parlez-en. Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi soutenir Accompagnante avec le pouvoir de l'argent. Grâce à la cagnotte libre, je vous mets le lien en description. Ici, je vous le rappelle, pas de sponsor, pas de pub. Ce podcast existe parce que vous l'écoutez, parce que vous le faites circuler. Merci la commu et je vous souhaite une belle écoute et surtout une très belle infusion. À très vite.
J'ai envie de te proposer qu'on parle maintenant de ton projet donc de BD, Défends-toi toi-même, qui est sorti très récemment, qui est sorti cet été. Comment est venue l'idée de ce projet-là? Comment ça s'est passé pour le processus justement de création? J'imagine que ça a dû être quand même assez dense puisque les ateliers, moi je vois quand j'ai pu être formée auprès de toi, c'était une semaine non-stop de formation. Il y a énormément de choses à tester, à aborder, à comprendre, à ressentir et j'imagine que l'objectif c'était d'en faire une BD là que je l'ai avec moi ici et elle fait donc 120 pages, 100 scènes, c'est quand même un exercice quand même, à mon avis, très intense. Donc, comment s'est passé le processus de création, justement aussi avec l'autrice et illustratrice Kaylam? Voilà, comment ce projet est venu? Et si, voilà, je sais que la maison d'édition, l'Iconoclaste aussi, a beaucoup soutenu le projet. Comment elles se sont positionnées? Et aussi, comment la BD a été reçue par le public? Voilà, qu'est-ce que tu as reçu comme retour jusqu'à maintenant? Puisque maintenant, c'était en cet été, c'est un peu récent, mais je pense qu'il y a quand même eu des choses qui se sont passées depuis la sortie de la BD.
Alors cette BD, elle a été en fait Kaylam est une autrice illustratrice talentueuse et connue dans son milieu hein, comme on dit. Et elle est venue à un atelier parce que moi j'accompagnais aussi les autrices et auteurs à la charte d'auteurs et d'autrices. Et elle a suivi un atelier d'autodéfense et elle a dit ah mais non mais il faut faire une BD là-dessus tout ça. Donc en fait le processus de création il a été ben, que j'ai formé j'ai accompagné Kay bah et c'est la BD c'est son processus de création de son chemin qu'elle a fait comment l'autodéfense l'a accompagnée elle en tant que franco hongkongaise. Et comment elle a pu utiliser ces outils. Donc en fait, elle s'en est imprégnée complètement et c'est elle qui a proposé le scénario. Et après, il a fallu faire des super allers-retours parce que même si ces outils sont simples, ils sont pas simplistes en fait. Et ça demande une posture vraiment claire. Et la question de la posture, finalement, j'ai la sensation qu'on peut un peu faire à sa façon ce qu'on veut comme accompagnant, dès lors que ben, la question de la posture, elle est claire, quoi. Et c'est ça qui a été le plus difficile à cadrer. Par exemple, moi, je fonctionne énormément par questionnement dans les ateliers. Le questionnement remonte, 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 remonte. C'est vraiment important de faire de l'horizontalité, du collaboratif. Et pour faire du vrai collaboratif, faut des vraies compétences, en fait. Parce que faire émerger la parole, c'est aussi, ça demande des compétences. Et donc ça, c'était important que Kay s'imprègne de tout ça. Et puis après, ben, elle a écrit 2 ans et demi quand même. On a fait d'aller-retour. Et puis, juste pour la petite blague, je vous dis, je gagne 61 centimes par album et qui est 1,50 €. Donc, c'est juste le quotidien des auteurs, autrices, c'est pas rien. Mais en tout cas, ben, c'est parce qu'il y a énormément de monde qui travaille et qui permettent de diffuser cet outil. Cet outil, moi, j'utilise tout le temps maintenant. Il est toujours là dans mes séances. Ça veut dire que des fois, des personnes disent, oh, bah tiens, je vais regarder, je vais l'acheter. Ça donne déjà le cadre systémique. C'est-à-dire, je viens en accompagnement. Oui, j'ai un problème individuel. J'ai un problème parce que j'ai peur des hommes. Et en même temps, bah, what the fuck, bah, c'est oui, c'est normal d'avoir peur des hommes, je dirais. C'est vu le contexte systémique, on peut se détendre avec ça. Pour autant, si c'est trop intense et si ça t'empêche de vivre, bon, ben bah, là, fait qu'on voit ensemble. Mais il y a un contexte systémique qui déculpabilise en disant et surtout. Pour qu'on arrête aussi, nous, thérapeutes, de reproduire des violences. Par exemple, quelqu'un qui est racisé, qui dit qu'il souffre d'agression raciste et lui dire, OK, on va travailler sur votre sensibilité. Ben non, on va pas travailler que là-dessus. C'est vraiment important de ne pas reproduire les violences systémiques, quoi. Donc, mon bouquin, il est aussi, enfin, le bouquin de Kay. Et moi, il est là pour ce petit rappel aussi.
Trop bien, merci, merci Anne. Je rebondis sur l'exemple par rapport aux agressions racistes. C'est entendu et vérifié en formation. Voilà, moi j'ai déjà été témoin de ça, où il y a une personne qui alerte sur sur cette notion-là de bah moi j'ai déjà vécu une agression raciste et voilà comment je l'ai vécu, et des formateurs et des formatrices qui posent la question mais qu'est-ce que ça raconte de toi? Voilà. On pose ça existe, c'est pas juste un exemple pris au hasard.
De même qu'on n'arrête pas parler d'épigénétique sur une femme dont la grand-mère a été violée, la mère et puis la fille peuvent ressentir cette peur des hommes. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui disait un grand-père qui a tué quelqu'un. Eh bien, on retrouve peut-être chez les fils la peur de tuer. Ou non, on raconte toujours l'épigénétique dans le viol. On raconte rarement l'épigénétique de la violence intériorisée, de la violence banalisée. On y accède un peu quand il y a des traumas éventuellement générationnels de guerre, mais c'est rarement les exemples qu'on prend. Et donc, si vous portez la peur des hommes, vous avez eu une grand-mère qui aurait été violée, vous portez ce trauma-là, donc hop, on va l'enlever, puis allez-y, vous allez aller mieux. Peut-être, et tant mieux, mais peut-être pas.
Merci pour cette précision. Donc vraiment, je vous invite à vous renseigner auprès de la BD, voilà, de d'Anne et de Kay. Voilà, défends-toi toi-même. C'est vraiment comme tu viens de le dire, Anne, c'est un outil qui peut vraiment vous servir non seulement pour découvrir, mais non seulement dans votre cabinet. Ça peut être aussi très facilement accessible. Vous pouvez lire un passage ou le recommander aux personnes qui pourraient être intéressées. C'est une très très bonne introduction. C'est pas un livre descendant, puisque vraiment, comme l'a dit Anne, c'est vraiment Kay qui a fait, qui a partagé elle son processus d'appropriation de la méthode VIP et au-delà.
Et c'est une BD en plus, hein. Donc oui. C'est vraiment facile à lire.
Exactement. Et je repasse sur ce côté de pour terminer vraiment cette notion autour du changement de ce que tu viens de préciser, Anne, sur voilà, il y a un trauma, hop, pif paf pouf, on enlève le trauma. Je pense que c'est ça aussi que l'autodéfense peut apporter, c'est qu'il n'y a pas que cette voie-là par rapport au changement. Il n'y a pas que en fait travailler sur un trauma et pif paf pouf, le côté on off. Il y a aussi cette autorisation à défendre, il y a aussi cette autorisation peut-être à se positionner autrement, qui peut se déployer. C'est important de vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se poser la question de quand on est accompagnant et accompagnante et qu'on dit justement qu'on accompagne le changement, souvent, surtout par exemple des personnes formées à l'hypnose où c'est souvent décrit comme une thérapie brève orientée solution, orientée changement, qu'est-ce que ça veut vraiment concrètement dire? Moi, je trouve que c'est important d'avoir des outils complémentaires pour pouvoir aussi accompagner et accompagner les personnes qui ne peuvent pas, qui ne sont pas dans une situation qui va changer dans l'immédiat. Donc, il ne va jamais vraiment changer. Parce que mine de rien, quand on se retrouve dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quid de notre posture? Quid de ce qui est vraiment possible et faisable? Moi, je sais que ça m'est arrivé de rencontrer des situations où vraiment les choses ne pouvaient pas changer. On ne peut pas dire à la personne, prenez vos clics et vos claques et partez, ou répondez-lui ça, ou faites ceci, faites cela. On ne peut pas. Là, il y a une limite. Mais comment on peut faire quand même pour continuer à accompagner? Justement, quand les situations ne peuvent pas bouger comme on aimerait qu'elles bougent, il y a quand même toujours cette notion de défense, d'autodéfense, et il y a donc des choses à tester, à imaginer. Et donc, c'est vraiment une invitation que j'avais envie de vous proposer. Anne, si tu me rejoins là-dessus.
Oh, ouais, complètement. C'est complètement là-dessus que je suis par rapport aux formations que je donne aussi en santé mentale. Et la santé mentale, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les personnes qui accompagnent médicalement, mais il y a aussi socialement, il y a les on est appelés les para-accompagnants. Je participe à un congrès autour de psychotrauma, c'est-à-dire on est plein pour accompagner une personne, et c'est vraiment extrêmement important. Pour moi, la notion de systémie et de santé mentale, où on est les éducateurs, les familles, soi-même, nous les accompagnants, certains personnels médicaux, tout le monde a sa place. Et effectivement, quand on est confronté à des personnes qui sont en pleine emprise, qui sont pas du tout sorties de des violences qu'elles sont en train de subir, quels outils on peut avoir pour être là et qu'elles puissent se saisir quand elle, donc laisser traîner une BD dans des centres sociaux, laisser traîner une BD à une amie comme ça, c'est autant de petites graines qui peuvent être vraiment importantes, quoi. Enfin, ça ou autre chose, hein, mais c'est vrai que c'est important. Ouais, la santé mentale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment toute une réflexion politique. Et il y a un site qui s'appelle Libérer la santé mentale et qui est vraiment un site aussi intersectionnel qui est vraiment chouette. Pas un site, mais sur Instagram.
Oui, Instagram, je vois très bien, ouais. Oui, c'est précieux et c'est intéressant parce que ça avait totalement résonance avec la table ronde de Selma Sardou qui est Anne Favier qui a eu lieu vendredi dernier où Selma justement prend le temps de poser en fait en quoi pour elle aujourd'hui la priorité c'est tout son travail autour de la santé et donc bien évidemment de la santé mentale et que c'est un enjeu archipolitique surtout pour les personnes qui sont minorisées voire multiminorisées. Et que prenez l'exemple justement de comment être dans une forme de bien-être quand on est une personne racisée qui est au contact concret ou non de violences policières. En tout cas, qu'on est dans un système où les violences policières sont clairement en fait présentes. Et que si on n'adresse pas ces problèmes-là, on peut pas en fait on fait des choses à l'envers. Donc voilà, cette notion est ultra politique en effet de la santé mentale individuelle et collective. Là, pour clôturer finalement cette table ronde, cette première partie-là, j'avais envie de te poser la question des évolutions futures pour toi, Anne, justement, autour de tes nouveaux projets, autour de la méthode MEVIP et au-delà. C'est quoi tes prochains projets? C'est quoi tes prochaines étapes? C'est quoi tes rêves?
Moi, je continue à faire des formations parce que mon rêve maintenant, c'est que d'autres personnes s'approprient les outils parce que je vais, il y a plein de demandes. J'ai des demandes d'agricultrices, j'ai des demandes de lycéens. Donc c'est aussi une façon de dire qu'il y a de la demande et il y a des moyens parce que c'est important pour moi aussi de se faire payer avec ça parce que la précarité chez les femmes, ça peut être quelque chose que je rencontre et que je vois. Donc, des journées, des ateliers d'autodéfense, c'est possible de les vendre. Donc ça, c'est chouette. Et pas que, hein, on en a parlé longtemps, mais cet aspect économique me paraît aussi politique. Moi, je continue à faire des... Ça, du coup, ça m'intéresse bien. J'en ai une à Laval de formation de formatrice pendant 5 jours du 3, 4, 5, 6, 7, du 3 au 7 décembre à Laval. Il y a encore quelques places. Il y en aura encore en 2025. Je fais des stages maïeusthésie théâtre, mais je vais faire des stages de accompagnant de théâtre, c'est-à-dire comment on va travailler sa posture, travailler aussi sa timidité peut-être, ou travailler son style d'accompagnant. Donc ça m'intéresse. Je fais un stage là, j'anime un stage maïeusthésie théâtre. Ça me plaît bien sur vraiment la notion de posture et qu'est-ce que ça révèle quand on met un accompagnement au plateau, que on voit les êtres imaginaires ou réels qui viennent. On est entre le théâtre, la constellation familiale, le psychodrame, donc ça m'intéresse. Voilà, que mon rêve quand même, c'est que il y a un petit réveil pour que le réchauffement climatique arrête, quoi. Je crois qu'il y ait des gens qui puissent boire et manger à leur faim, là. Ça, c'est quand même mon rêve, ouais.
Top, merci Anne, merci pour ton partage.
Bienvenue.
On arrive à la fin donc de ce premier temps donc de la table ronde. Donc merci Anne pour tout ce que tu as posé là, pour ta générosité justement dans tes partages. Et donc je me tourne vers vous, personnes qui nous écoutez en direct. Ça va être votre moment à vous. Donc, avec Anne, on reste disponible pour, voilà, si vous avez besoin de poser des questions, s'il y a besoin de précision, revienne sur des éléments qui ont été posés, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie de prendre le micro aussi pour partager vos punchlines, là, les punchlines qui ont résonné pour vous, les éléments clés que vous avez pu noter, parce que j'ai vu certaines personnes prendre des notes, voilà, de découvrir en direct ce qui résonne avec vous, je trouve ça plutôt chouette. Et puis aussi, si vous avez des partages d'expériences, n'hésitez pas. À nouveau, je précise que c'est un temps enregistré, donc si vous avez besoin que j'arrête l'enregistrement, libre à vous de me le signifier. Aucun souci, et vous pouvez prendre donc la parole soit à voix haute avec le micro, caméra ou pas allumée, c'est comme vous voulez. Et sinon, ça sera dans le chat qu'on pourra vous lire avec plaisir. Donc, je me tais et je vous passe la parole. Oui, Maza.
Oui, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Vous m'entendez, ça va?
Oui.
Juste partager une punchline que j'ai adorée, que tu as dit, c'est « on a le droit de ne pas s'en remettre ». L'injonction à la résilience, on a le droit d'être désespéré, inconsolable. Ça fait vraiment, vraiment du bien d'entendre ça. Et j'ai une question. En début de la visio, j'avais l'impression qu'il y a comme une tension entre collectif et individuel au niveau des émotions, parce qu'on parlait aussi de ça, autodéfense émotionnelle. Je me demandais, toi, qu'est-ce que tu en penses, Anne, de cette phrase que j'entends beaucoup, de « chacun est responsable de ses émotions ». Parce que, enfin, pour moi, c'était pas forcément clair entre on est responsable et en même temps on a besoin des autres. Enfin, toi, t'en penses quoi quand on dit ça, chacun est responsable de ses émotions? Voilà. Un grand merci.
Bah, c'est encore, ça dépend comment c'est dit. Si je te dis, je te fais miroir par la main, t'es responsable de tes émotions. Démerde-toi et une fausse communication non violente qui est très violente, c'est pas du tout cool. Si c'est d'un point de vue, mais j'ai l'impression que c'est un peu dans cette intention-là. Chacun est responsable de ses émotions, donc gère tes émotions, c'est ça un peu.
Ouais, okay. C'est ça. C'est, enfin, je sais pas. Moi, j'entends beaucoup des gens qui disent bon, mais c'est, enfin. C'est à cette personne-là de gérer ses émotions. Je suis pas responsable des émotions qu'elle a pu ressentir, même si je l'ai blessée. Enfin, du coup, moi, il y a un truc qui me gêne, mais j'ai du mal à expliquer pourquoi. Parce que pour moi, on est tous, toutes connectées. Enfin, on est. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, la notion de responsabilité là-dedans est hyper complexe, je trouve.
Bah, en fait, c'est pas parce que t'es responsable de tes émotions que j'ai pas été un déclencheur, un stimuli. Et qu'en tant que stimuli, si j'ai envie de relationner avec toi, je vais aller un peu plus loin et je vais te demander en quoi est-ce que j'ai fait à déclencher cette émotion chez toi. Et donc, je vais avoir de la curiosité pour toi. Si on le fait, vas-y, en quoi, imaginons en quoi est-ce que j'ai fait à déclencher ta colère, par exemple. Et toi, tu vas me dire quoi?
Je sais pas. Je vais dire. Bah, tu as dit telle chose et ça m'a fait ressentir de la colère.
Bah écoute, je suis désolée. Je suis désolée, j'avais pas l'intention de déclencher de la colère, mais je vois que ça en déclenche. Et après, on peut continuer l'échange, si on a envie de continuer l'échange. Mais effectivement, je pense que la première chose, c'est d'être conscient tous et toutes qu'on déclenche des émotions chez l'autre. Oui, nous sommes des stimuli et oui, nous déclenchons des émotions chez l'autre. C'est pas confortable parce qu'on aimerait déclencher que des émotions et des fois on déclenche de la colère et des fois on déclenche de la tristesse et des fois on déclenche du désespoir. Et effectivement, des fois quand toi tu vas me dire ça, je vais pas être contente. Mais toi, tu peux aussi toi aussi, t'es pas contente. Enfin, personne n'est content quand on déclenche des émotions comme ça. Mais si on assume le fait que on est potentiellement agresseur, mais c'est pas grave de déclencher des émotions chez les autres, en fait. Et l'autre peut être en colère de nous. Après le dédouanement, chacun est responsable. Oui, de toute manière, chacun est responsable de sa vie et on peut toujours dire qu'il a qu'à se démerder et aller chier dans sa caisse, comme on dit. Mais est-ce que ça nous intéresse de relationner comme ça? En tout cas, le dénigrement de dire tu n'as pas à ressentir ce que tu ressens, ça, c'est effectivement quelque chose que vous pouvez toujours noter. Si quelqu'un vous dit « Oh, mais t'es trop susceptible, t'as pas à réagir, tu surréagis. » Le truc qui m'énerve le plus en ce moment, c'est « tu surréagis ». Ben, en fait, je réagis avec ce que je peux, s'il te plaît. Et en fait, t'as pas à me dire que j'ai pas à avoir froid alors qu'il fait 15 degrés. J'ai froid alors qu'il fait 15 degrés. Donc, t'as pas eu l'intention de nuire. Je vois que t'es embêtée d'avoir produit ça chez moi. Parce que la personne, elle est embêtée éventuellement. Elle est mal à l'aise d'avoir provoqué de la colère. Elle est embêtée. Je vois que t'es embêtée que je sois en colère par rapport à ce que t'as dit. Pour autant, je suis en colère. Là où je me tournerai vers toi ou vers moi, je me dirais, ben, 2 secondes, je vais faire avec ma colère parce que là, sinon, je vais t'en mettre une. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc, on va pouvoir, effectivement, comme on dit, essayer de faire descendre l'intensité émotionnelle pour pouvoir relationner. Et puis, en même temps, le conflit, ce n'est pas grave. Donc, des fois, on peut aussi s'engueuler et des fois, on peut aussi être en colère après quelqu'un. Si tant est qu'on puisse éventuellement dire des fois quand on dénigre notre colère, ce qu'avait dit Ségolène Royal quand il avait dit comment Sarkozy avait dit à Ségolène Royal « Comment pouvez-vous être présidente de la République alors que vous êtes agressive ?» Elle a dit « Je ne suis pas agressive, je suis en colère, une colère saine par rapport à je ne sais plus quel sujet. » Donc, la colère, ce n'est pas un problème non plus en soi. Donc, oui, je suis responsable à 100% de mes émotions, mais ce n'est pas pour ça que je suis que tu as à me dire ce que je dois ressentir. Ça répond un peu ?
Oui, merci beaucoup. Je vais rajouter des choses, vraiment dans ma perspective et à chaud. C'est que peut-être on peut garder cette notion de responsabilité de ses émotions, de ses propres émotions. Mais comme le dit Anne, moi je vais le dire avec mon mot à moi, mais il y a aussi quand même la notion de co-responsabilité de la relation et du lien.
C'est ça, ouais, merci.
Ouais. Allez, ça, c'est, il y a toujours une co-responsabilité de la relation et du lien. Et on ne peut pas aller l'un sans l'autre. Oui, je suis responsable de mes émotions, mais on est co-responsable en fait du lien. Et ce que tu as dit dans, dans l'échange avec ce « je suis désolée », ça peut paraître un peu con-con et cuculapraline de ce « je suis désolée ». Et en même temps, il y a très 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 peu de personnes qui sont capables aujourd'hui de poser un « je suis désolée ». Ça présente des excuses. On le voit encore même quand il y a des bourdes au niveau des campagnes de communication, où il y a des crises de communication. Enfin, moi, je suis très alerte de ça parce que c'est le milieu dans lequel j'ai beaucoup évolué et j'ai été consultante en crise de communication et je vois quand parfois, en fait, il y a des annonceurs qui font des grosses bourdes en communication et qui sont même pas, qui pondent un communiqué de presse mais horrible où ils font genre qu'ils s'excusent et il n'y a pas une seule once de vraiment de « je suis désolée » et on vous présente des excuses. Voilà, donc c'est ce genre, ça peut paraître hyper basique, mais c'est loin. À nouveau, ça peut paraître simple, mais c'est pas simpliste. Et c'est d'autant plus puissant aussi, je pense, comme notion à avoir en tête. Comment tu te sens, Maza, avec tout ça?
Et c'est tellement reposant.
Oui.
En fait, Maza, tu me dis, ça te va pas, ça t'a touché. Ben, je suis en non-savoir de ce que tu vis. Ben, je suis désolée. J'avais pas eu l'intention de nuire, mais je vois que ça t'a nui. Je suis embêtée parce que j'avais pas du tout envie de ça. Mais du coup, ben, je suis en non-savoir. De toute manière, je suis en non-savoir de ce que l'autre ressent. Et ça va vous faire des vacances parce que vous pouvez, une personne dit, peut vous dire, mais ce que vous dites là, c'est raciste. Ok. Mais j'avais pas pris la mesure. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi c'est raciste? Ben, ça. Ah, ok. Ben, je suis désolée. Et ou bien voilà, vous dégenrez quelqu'un qui est en transition, ben vous excusez. Et c'est pas si dramatique que ça.
Et en même temps, je précise quand même que vous êtes totalement, c'est totalement ok que vous soyez senti. Si vous avez été à un moment donné dans une situation où vous vous êtes senti agressé, c'est pas, comme l'a dit tout à l'heure Anne, c'est pas forcément à vous d'éduquer l'agresseur non plus. Il peut y avoir d'autres relais, il peut y avoir quand même d'autres temps. Voilà, c'est pas parce que la personne est forcément curieuse et va vouloir savoir que vous devez tout lui apporter sur un plateau et que ça doit seulement passer par vous. Je remets tout ça, donc responsable des émotions, responsable aussi de son un avancement de son ouverture. Enfin voilà, il y a plein de. En fait, à nouveau, c'est co-responsabilité du lien. C'est ça.
Et quelqu'un qui vous dit tu es responsable de tes émotions, vous avez aussi le droit de faire ça en fait.
C'est quoi ça, Anne? Parce que les personnes qui écoutent, elles vont pas voir.
Eh ben, c'est la fuite.
Ouais.
Quoi? C'est-à-dire que j'ai coupé ma caméra, mais il y a des questions. Des fois, je suis dans des bars et puis dis ah, t'es féministe. Hop, je m'en vais. Mais sans aucune politesse, sans aucun signe ostentatoire, je m'en vais. Juste là, en fait, j'ai pas envie de vivre ça. Hop, je m'en vais. Mmh. Et si ça vous stimule, quelqu'un qui vous dit ça, t'es responsable de tes émotions et tout ça, selon ce que vous êtes venu vivre, si vous êtes venu boire un coup, s'il te plaît, tu t'en vas. ou bien tu fais stop. Voilà. On va trouver les différentes stratégies. Et merci pour la co-responsabilité du lien, Elsa, qui est une punchline. Mais t'es pas obligé d'éduquer ton agresseur. Enfin, non, tu n'éduques pas ton agresseur. C'est quand t'as été boire un coup, pisser, que t'es tranquille, que tu viens de te reposer, que éventuellement, si t'en as envie, tu parles de la co-responsabilité du lien.
En tout cas, merci, Elsa. Merci beaucoup. Merci aussi, Anne, pour ton retour. Stéphanie, c'est à toi.
J'avais envie de rebondir parce que moi j'ai noté plein de choses. Enfin, merci parce qu'elle était incroyablement riche et ça a résonné très très fort. Mais là, en lien là avec ce qui est posé, enfin, tu as dit quelque chose, Anne, qui était important et je trouve que ça résonne bien. C'est la notion de si je suis autonome sur mon propre sentiment de sécurité, je peux faire face à ce qui me vient de l'extérieur. C'est ça, et tu le disais bien, enfin, c'est quand je suis autonome, je peux relationner sainement. Et effectivement, j'ai cette capacité, finalement, dans ce qui m'est amené, à choisir en conscience soit d'aller au front, soit de... Je laisse, effectivement, dans cette notion-là, en fait, ma liberté, elle vient de mon autonomie. Et je trouve que quand on a réussi à acquérir ça, c'est hyper puissant. Moi, j'accompagne des personnes en formation sur manager les comportements difficiles. Et c'est un espace dans lequel, où effectivement, c'est des managers qui vivent des micro-agressions en permanence. Et j'aime bien tous les mots que tu as amenés, parce que moi, ça me donne des clés pour aller plus loin dans ce que je leur apporte. Mais je leur apporte beaucoup cette notion de co-responsabilité, de lien sur le domaine émotionnel. Mais j'ai beaucoup aimé toutes ces clés, il y a des punchlines, il y en a une quantité phénoménale que j'ai trouvée très puissante sur la compréhension finalement de ce qu'est l'être humain simplement. Et moi, je parle toujours de carte du monde. On a chacun notre carte du monde. Et quand ces deux cartes du monde, elles viennent se toucher, ben, il y a des fois, ça pénètre bien, ça se confronte et il y a de la porosité. Et il y a des fois, ça passe pas. Ça télescope. Et à ce moment-là, effectivement, ben, si je vais bien et que je me sens en sécurité, ça va bien se passer parce que j'ai pas de danger. Si je suis fragile, c'est là où ça vient me toucher et que c'est plus compliqué émotionnellement à gérer. Et j'ai trouvé que c'était, c'est dire les choses finalement telles qu'elles sont. Et je trouvais ça très chouette.
Merci beaucoup. Merci, c'est très agréable de contribuer.
Merci.
Parce que je trouve que on a tous envie de contribuer et que on le fait des fois de façon tragique. Et donc, quand on peut renommer à quelqu'un, waouh, t'as voulu tellement contribuer pour moi et c'est tellement tragique la façon dont tu le fais. Déjà, on est sur du rire. On peut être là-dessus, quoi. Merci. Ouais.
Merci à toi.
Et je veux juste apporter une légère nuance dans ce « si je suis autonome, je peux donc, si je suis autonome sur mon sentiment de sécurité, à nouveau, c'est pas non plus en fait quelque chose de on-off, c'est pas « je le suis pas et je le suis et je le suis devenu et maintenant c'est acquis, ça bouge pas et c'est seulement un processus individuel de moi à moi et je suis seulement responsable de mon sentiment de sécurité ». Enfin voilà, tout ça c'est, je pense que Anne l'a bien posé, mais je le reprécise. Tout ça, c'est dans des dynamiques individuelles et collectives et systémiques, et que c'est un processus, c'est un cheminement, et c'est pas du tout, on n'a pas du tout le même point de départ, et on n'aura pas du tout en fait le même cheminement par rapport à ça, quoi.
Ouais. Et puis c'est des croyances utiles ou pas, c'est-à-dire que tiens, je vais tendre vers vers mon propre sentiment de sécurité. Mais je ne sais pas ici qui est totalement autonome avec son sentiment de sécurité. Je pense que c'est une croyance ou un paradigme aidant qui permet encore une fois de porter l'attention sur quels sont mes moyens d'agir plutôt que d'être hypnotisé par ce que l'autre devrait faire et comment je vais essayer de changer l'autre. Donc ouais, se sentir responsable de son sentiment de sécurité, c'est presque un vœu pieux et c'est une croyance qui peut être aidante, quoi.
Top. Merci Anne, merci Stéphanie. Est-ce qu'une autre personne voudrait partager une punchline qu'elle a attrapée au vol ou partager une résonance ou un questionnement ou une demande de précision? Oui, Jessica.
Ben merci beaucoup, c'est waouh. J'ai pas de mots pour dire comment ça, c'est, je trouve ça vraiment, ça fait du sens vraiment. Wow. Et ma punchline, c'est on ne cherche jamais à combattre l'agresseur, on cherche à faire cesser l'agression. Ce qui est une différenciation clé majeure. Ouais, j'entends. Et sinon partage slash question. Dans le fond, j'aimerais bien t'entendre parler de plus de communication non violente, parce que moi, je viens de ce milieu-là. Et l'année dernière, j'ai vécu une grosse crise existentielle par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte, en fait, comment ça pouvait être, cet outil-là pouvait être aveugle aux oppressions systémiques et comment ça pouvait perpétuer, en fait, les oppressions systémiques. Quand quelqu'un d'opprimé, par exemple, se fait dire que, bah, il faut qu'elle aille en écoute empathique, alors que non, ça va perpétuer l'oppression. Ou voilà. Et donc j'aimerais ça savoir comment toi tu travailles avec la communication non violente et comment toi t'en fais un outil d'émancipation plutôt que un outil qui perpétue l'oppression.
Ah ouais. Alors tous les outils, hein, c'est chaque fois c'est ceux qui s'en servent qui fait que les limites de l'outil. Moi je suis pas formée en communication non violente, mais en maïeusthésie, et c'est de la communication avec assertivité. Mais on pourrait dire que ça peut se ressembler, et que la question des violences et des oppressions des milieux dits safe, c'est un vrai, vrai souci, effectivement, parce que dans ces milieux-là se reproduisent les oppressions systémiques, et donc effectivement, c'est, je dirais, Deux points. La première chose, c'est que pour moi, il n'existe pas de lieu safe. Comme ça, au moins, je fais le deuil de ça. Et ça me permet d'être en acuité, en appétit, en appétence de la relation. Et même dans un lieu dit safe, j'essaye d'écouter ce que dit la personne à côté de moi. Et si elle me dit qu'elle vit quelque chose qui lui fait du mal, je prends, si j'ai les moyens, du temps de l'écouter. Donc ça, c'est la première chose, c'est que même avec mon compagnon, je ne pose pas comme relation safe, en fait. Ça n'aide pas, moi, ça m'aide pas. Je pose comme relation vivante, et que dans la relation vivante avec l'autre, je m'expose à être touchée, à être à blesser l'autre, voilà, bref. Donc ça, c'est déjà, pour moi, les milieux safe n'existent pas. Et donc toi, ça te permet peut-être d'avoir des outils en te disant, parce que c'est horrible, on va dans un milieu dit safe, on se pose, et là, bim, on se reprend une oppression, quoi. Donc déjà, pour toi, en fait, les milieux safe n'existent pas. Même les milieux, enfin, c'est ma croyance, même les milieux d'entre-soi, il y a des reproductions de violences systémiques, et donc, je préconise plutôt l'appétence, la curiosité, l'écoute, que le truc comme ça. Et puis après, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand on utilise mal un outil, eh ben, effectivement, il reproduit des oppressions systémiques. Et ça, c'est si on arrive à remettre ça dans le champ de la conscience. Mais moi, il y a plein de groupes où c'est super chouette d'un côté et puis de l'autre, mais il y a des angles aveugles. Nous ne parlerons pas d'un endroit où nous avons appris l'hypnose, mais c'est même plus des angles morts qu'il y a sur les oppressions systémiques, quoi. Ça n'existe pas. Et donc, ça reproduit des oppressions vraiment fortes avec des hommes blancs, cis, qui enseignent à des femmes jeunes ou plus âgées. Mais voilà, enfin bref, ça reproduit des oppressions. Je sais pas si ça répond un peu à ton questionnement. Et qu'est-ce que ça te fait de dire qu'il n'y a pas de milieu safe?
Ouais. Oui, bah t'as raison. En fait, c'est de partir de ce principe-là et de faire le deuil d'avance. Je pense que ça, c'est une clé. Et puis, ça répond en grande partie à la question. Peut-être le petit bout qui me manque, c'est comment. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Hein, c'est comment on peut. Est-ce qu'il y a des garde-fous ou des questions à se poser pour vérifier, pour se checker soi-même si on est en train d'utiliser l'outil d'une façon qui perpétue l'oppression ou d'une façon qui libère.
C'est toujours la co-responsabilité du lien. Qu'est-ce que tu ressens? Même là, tout de suite, si je te dis un truc et que toi, tu as une boule dans le ventre, ben, c'est que c'est pas OK. Je sais même pas ce que je peux te dire. Mais en tout cas, tu pourras chercher. Tu dis, tiens, il y a une boule au ventre, là, d'un coup. Et peut-être ça te donnera reculer puis te dire tiens à quel moment c'était la boule dans le ventre, c'est quand elle a dit ça, ou bien c'est parce que je n'ai pas mangé, ou bien c'est parce que je viens de recevoir un texto, tu vois. En fait, ce sera toujours tes ressentis. Enfin, je ma boussole, c'est tout le temps mes ressentis. Et ce que je peux te dire, c'est que tes ressentis, c'est tes ressentis et qui sont légitimes et qui c'est non négociable. Donc après, CNV, pas CNV, c'est non négociable. Ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens, quoi. Et après, on va interagir ensemble. Si je peux dire un truc un peu, ne vous laissez jamais dicter vos ressentis. Quelqu'un qui vous dit, t'as pas à ressentir ce que tu ressens, c'est, ben non, en fait, ça, c'est de suite, ben, en fait, je ressens ce que je ressens.
Merci. Bon,
ça répond un peu, mais.
Oui. Là, on en revient toujours à la sagesse du corps, hein.
Ben, moi, c'est un bel outil, ouais.
Mais tu vois, Jessica, moi pareil, je vais répondre à chaud en complément de ce que pose déjà Anne là-dessus. Sache que déjà, t'es pas la seule par rapport à la CNV. Voilà, moi, j'ai déjà accompagné des pros de l'accompagnement justement sur la question de l'alignement et je rejoins Anne finalement avec cette notion de la sagesse. Même toi, ce que tu poses avec la sagesse du corps. Moi, j'ai déjà accompagné des pros de l'accompagnement qui accompagnent justement avec l'outil de la CNV, qui sont venus auprès de moi pour me solliciter, pour justement, parce qu'ils repéraient un désalignement. Et là, c'est ce que dit Anne, que finalement, si toi, t'as la boule dans le ventre quand tu proposes ton outil, dans une certaine situation, c'est qu'il y a quelque chose, tu le sais déjà, il y a déjà, donc te force pas, en fait, à aller dans ce cheminement-là quand tu sens que c'est pas OK pour toi. Mais sache que quand je te dis que t'es pas la seule, peut-être regarde du côté de Clémence Petit. Tu la trouves sur le compte Instagram Clémence Petit Accompagnement. Je sais pas si tu la connais déjà. Je crois qu'elle a créé un groupe de supervision. Alors, je me rappelle plus du nom, mais je crois que c'est les girafes dissidentes ou les girafes révoltées ou les girafes clandestines. Je sais plus comment ils se sont nommés, mais c'est un truc du style-là. Donc,
girafes clandestines.
Voilà, merci pour la précision. Mais voilà, les girafes clandestines. Donc je pense que voilà, ne reste pas seule. Il y a d'autres personnes qui se posent la même question que toi. Donc, n'hésite pas. Moi, ce que tu as dit, en fait, sur l'idée que l'outil, en fait, ça t'avait amené à une grosse crise existentielle. Moi, je te dis youpi. En fait, moi, j'adore les crises existentielles. Ça veut dire qu'il doit y avoir un désalignement quelque part et que c'est pour le mieux. Que ça a besoin de se réaligner et presque même, en fait, c'est peut-être que tu es allé au bout de cet outil-là et qu'il y a besoin que toi, tu crées un autre outil ou un autre courant de pratique ou un autre élément, donc sois créatrice de ça. Vraiment, autorise-toi. Moi, le dernier truc que je pourrais te dire, c'est que, peut-être pas seulement par rapport à la CNV, mais voilà, c'est à chaque fois, moi, j'ai un message clé aux accompagnants et aux accompagnantes. Quand il y a des choses qui frottent avec leurs outils, c'est déjà en fait de replacer les outils comme des outils. Et que c'est toi, ton premier outil, à replacer au centre de tout ça. Et toi, t'es beaucoup plus au clair avec toutes ces notions-là. Et que c'est à toi, en fait, de te repositionner au centre. Voilà. Comment tu te sens avec ça, déjà?
Super, merci. Ça répond à beaucoup de choses. Ça soutient beaucoup. Puis de savoir que, voilà, d'aller voir le travail de Clémence Petit, ouais, ça me stimule.
Et qui c'est qui vote pour que, voilà, on décide que tu sois une super accompagnante?
on vote tous pour.
Voilà. T'es voilà. Légitimée, ça y est.
Exactement. On t'adoube. Le pouvoir du Punchline Festival, Jessica, tu es adoubée.
Oui, c'est que plus tu auras confiance et sache aussi que c'est systémique d'avoir ces déficits de confiance. Donc ça aussi, c'est systémique. Donc c'est aussi pour ça que régulièrement, on s'amuse à voter. T'as pas confiance en toi? Moi, j'ai confiance en toi. Allez, si tu te crois pas, ben crois-moi. Et en quoi c'est aidant? Tu vois, c'est pareil, hein. Tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, vous dites en quoi c'est aidant? Ah, tiens, ça c'est aidant. Bon, je garde. Ça, ah ben non, c'est pas aidant. Voilà.
Clairement. Clairement. La notion de tri est hyper importante dans le processus d'alignement. Ouais. Magali, t'avais une. Merci Jessica, merci Anne. Magali, t'avais levé la main tout à l'heure. Je vois que
Oui, j'ai levé la main, mais vu que je vois aussi le temps qui passe, donc merci beaucoup parce que c'était vraiment ces 4 pages de cahier que j'ai écrit. Je pense que l'introduction était au-delà en fait de mes attentes. J'avais beaucoup de curiosité. D'ailleurs, je t'en avais parlé Elsa du livre à la sortie. voilà, donc je l'ai toujours pas acheté ce coup-ci. Je pense que c'est bon, je vais passer à l'action. En plus, je suis à Angoulême, donc ville de la BD. Donc, wow. Je sais qu'il est à l'île aux images. Coucou Clémence aussi, elle verra. Voilà. Donc, c'est parfait. Et du coup, je me suis permise de mettre ma punchline dans le chat. Donc, moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est comment on s'allume malgré la météo et les injustices. En laissant la vie jaillir, la vie est thérapeutique. Merci à vous.
Oh, c'est bien ça. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est chouette. Hein.
Mais je vote.
Ouais, on vote. Ouais.
D'ailleurs, t'es déjà passé, Anne, sur le podcast accompagnante il y a 2 ans.
Ouais.
Et si vous voulez l'écouter encore plus sur la notion de vie et comment ça s'installe vraiment dans l'accompagnement et son cabinet, voilà, l'épisode s'appelle Restaurer le flux de la vie. Donc, n'hésitez pas à écouter aussi. Je pense que vous pourrez trouver des pépites.
Je voulais dire aussi juste une chose, c'est que en fait, j'interviens dès lors qu'il y a un groupe de 10, on peut me faire venir ou on peut me faire venir en visio. Donc, faut pas forcément attendre qu'il y ait des ateliers spontanés parce que j'en fais quasiment pas des spontanés. C'est plutôt des groupes de personnes qui me sollicitent. Et à ce moment-là, on monte un atelier ensemble selon les besoins, en présentiel, je suis à Poitiers. Ou en visio.
Merci.
Et un accompagnement individuel aussi.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager une ultime bafouille, une ultime punchline, une ultime résonance ou question? Allez-y. Donc non, j'ai l'impression que c'est bon pour vous. Arrêtez-moi avant que je stoppe tout. Non, ça va? Ok, bon en tout cas merci beaucoup Anne, merci beaucoup pour tous ces partages, je pense que c'était très riche et très inspirant. N'hésitez pas voilà à vous saisir de tout ça. Je vous propose voilà ce support qui est un template de story que je vous ai envoyé par mail. L'idée c'est vraiment que vous puissiez vous approprier cette table ronde avec des résonances, avec les punchlines. L'idée, c'est d'envahir les réseaux sociaux pour que ça puisse embarquer le maximum de personnes, mais aussi laisser des traces, montrer qu'on prend l'espace. Voilà, et on ne sait jamais, ça se trouve, il y a une personne qui va lire cette punchline et que c'est pile poil celle dont il ou elle avait besoin. Donc voilà, je compte sur vous pour jouer le jeu à votre sauce à vous. Et en tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et votre participation. Et un grand merci à Anne aussi pour tout ce que tu as pu partager aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle continuation. Prenez bien soin de vous.
Merci.
Bye, merci.
Puis on a gagné, hein. On sait pas quoi, mais
wouh, on a gagné.
Oui, on a gagné. Merci.
Bye bye.
Bye bye.
Et voilà la team de Turfu, c'est tout pour cet épisode d'Accompagnante. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et que vous repartez avec votre dose de power. Rappelez-vous, Accompagnante, c'est un podcast et c'est aussi un espace, une communauté qui a besoin de votre force pour grandir. Alors pensez bien à vous abonner au podcast et à laisser une note et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est totalement gratuit, mais votre soutien n'a pas de prix pour moi, alors vraiment merci. Merci en fait de prendre ce temps-là. Et si vous voulez soutenir Accompagnante pour le pouvoir de l'argent, vous pouvez le faire via un don libre, c'est totalement possible. Je vous mets le lien de la cagnotte en description. Et d'ailleurs, en description, vous pouvez aussi retrouver toutes les ressources mentionnées dans l'épisode. Et pour aller plus loin, c'est sur mon site internet, elsacoutillier.com. La team, si vous avez aussi envie de partager vos tilts concernant l'épisode, si vous avez des questions, des idées de sujets ou des invités que vous aimeriez entendre dans de futurs épisodes, vous pouvez me contacter sur Instagram à @elsacoutillier. En attendant, continuez à repolitiser votre pratique d'accompagnement et à être les véritables révoltés dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'accompagnante. Je vous dis à plus dans le bus de la révolution et prenez bien soin de vous. L'objectif est de repolitiser votre chemin d'accompagnement et changer le monde. Un projet pour monter le volume ensemble. On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.